Audiolib présente Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, traduit de l'anglais par Marc Amfreville, lu par Marie Dubled. À Amanda, Margaret et Barbara. Salut à vous. Si je ne vous avais pas vu, je ne vous aurais pas connu. Je vous ai vu, vous ai connu, vous ai aimé. À tout jamais. Première partie, le marais. Prologue. ...1969. Un marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière, où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel. Des ruisseaux paresseux charrient le disque du soleil jusqu'à la mer et des échassiers s'en envolent avec une grâce inattendue, comme s'ils n'étaient pas faits pour rejoindre les airs, dans le vacarme d'un millier d'oies des neiges. Puis, à l'intérieur du marais, ça et là, de vrais marécages se forment dans les tourbières peu profondes, enfouis dans la chaleur moite des forêts. Parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, l'eau des marécages est sombre et stagnante. Même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. On entend quelques bruits, bien sûr, mais comparé au marais, le marécage est silencieux parce que c'est au cœur des cellules que se produit le travail de désagrégation. La vie se décompose. Elle se putréfie et elle redevient humus. Une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie. Le matin du 30 octobre 1969, le corps de Chase Andrew fut retrouvé dans le marécage, qui, sans surprise, l'aurait englouti en silence, le faisant disparaître à tout jamais. Un marécage n'ignore rien de la mort et ne la considère pas nécessairement comme une tragédie, en tout cas pas comme un péché. Mais ce matin-là, deux garçons de la petite ville pédalèrent jusqu'à la vieille tour de guet et, en arrivant au troisième palier, repérèrent en contrebas son blouson en jean. Chapitre 1. Ma. ...1952. Le jour brûlait par ce matin d'août et le souffle humide du marais suspendait des voiles de brouillard aux branches des chênes et des pins. Les bosquets de palmiers nains étaient inhabituellement silencieux, mis à part le lent battement des ailes du héron qui s'envolait de la lagune. Kia, alors âgée de 6 ans, entendit claquer la porte à moustiquaire. Juchée sur un tabouret, elle cessa de récurer les restes de gruau de maïs collés à la marmite et la plongea dans l'eau savonneuse déjà sale de la cuvette. Aucun son à présent. Rien que sa respiration. Qui venait de quitter la cabane? Pas Ma. Elle ne laissait jamais la porte claquer. Mais quand Kia se précipita dans la véranda, elle aperçut sa mère, vêtue d'une longue jupe brune dont les plis d'aisance lui caressaient les chevilles, qui descendait le chemin sablonneux sur ses hauts talons, des chaussures à bout carré, en simili-cuir d'alligator. Celles qu'elle portait pour sortir. Kia aurait voulu crier, mais elle savait qu'il ne fallait pas réveiller Pa. Elle ouvrit la porte et se posta en haut des marches en briques et en bois du perron. De là, elle vit que Ma portait sa grande valise de voyage bleue. D'ordinaire, avec la confiance d'un chiot, Kia savait que sa mère reviendrait bientôt, les bras chargés de viande emballée dans du papier marron huileux ou d'un poulet entier dont la tête se balançait au bout de son cou. Mais jamais Ma n'avait aux pieds ses chaussures en alligator, ni ne portait une valise. Ma se retournait toujours à l'endroit où le chemin rejoignait la route, le bras levé bien haut, agitant sa main blanche, avant de s'avancer sur la piste qui traversait les forêts des marais et les lagunes envahies de roseaux pour gagner la petite ville.